Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La migration clandestine, c'est d'elle que nous allons parler dans le Grand Dialogue de ce mardi. Pourquoi encore la migration clandestine? Parce que le phénomène vient encore une fois de plus de faire des dégâts, d'énormes dégâts. En l'espace de moins de 3 semaines, la Méditerranée vient d'engloutir plus de 700 candidats à la traversée. D'où cette question. Qu'est-ce qui explique le fait qu'après tant de tragédies, le nombre de candidats à l'épreuve supérieure de la traversée de la Méditerranée ne faiblit pas? Quelles sont les mesures concrètes envisagées et celles envisageables pour minimiser les risques? On ne peut s'empêcher de se poser ces questions et bien d'autres, des questions que nous allons adresser à nos invités. Ils sont donc au nombre de deux. Mamadou Konaté, qui est juriste à l'Association malienne des expulsés, et Sadio Diakité, lui, il sera en ligne. Il est l'adjoint au président du Haut Conseil des Maliens de France. L'émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. Plus de 700 morts lors de la tentative de traverser la Méditerranée en moins de 3 semaines. Les chiffres font trembler. L'ampleur des dégâts au niveau de la Méditerranée est telle qu'elle ne saurait laisser indifférent où que l'on soit. Alors, c'est l'hécatombe qui semble donc continuer. Non, je pose la question à vous, Mamadou Konaté, juriste à l'Association malienne des expulsés.
Merci, Monsieur Fomba. Merci au studio Tamani de nous avoir invités pour parler donc de ce phénomène tragique, assez décompte macabre auquel donc nous assistons depuis quelques années déjà. Alors donc au niveau de l'Association malienne des expulsés AME, nous sommes en train donc de préparer une déclaration pour donner notre point de vue sur cette question une fois de plus, puisqu'on l'a fait à plusieurs reprises déjà. Alors donc c'est extrêmement donc frustrant à la fin donc de constater que malgré le fait que nous assistons depuis quelques mois déjà à différents naufrages, donc ça continue. Et pendant cette semaine ou ces dernières semaines, nous assistons à des centaines donc de personnes qui sont portées disparues dans les eaux. Et ce que les gens oublient également, c'est vrai, c'est ce que nous connaissons, mais il y a des centaines de personnes également qui disparaissent, qui meurent de faim sur le sable. Et voilà, c'est très triste. Nous sommes tout à fait émus devant cette situation.
Je le disais, nous avons en ligne Sadio Diakité, qui est l'adjoint au président du Haut Conseil des Maliens de France. Monsieur Diakité, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, cette triste nouvelle, le fait que encore des centaines de migrants aient perdu la vie sur la Méditerranée?
Merci, Monsieur Fomba. Merci aussi, Sadio Diakité, de nous avoir donné la parole. Merci à mon collègue qui est sur le plateau. Et c'est vrai que nous avons accueilli la nouvelle avec une très grande tristesse, parce que comme vous le savez, c'est pas la première fois. Nous avons toujours déploré cette situation-là. Et surtout, comme disait l'autre, aujourd'hui, on voit que la mer est en train de faire des dégâts énormes. À chaque jour, c'est des centaines de migrants qui périssent dans la mer, mais aussi il y a aussi au niveau de la voie routière dans les sables, etc. Donc on ne peut que déplorer cette situation une fois de plus.
Alors, nous allons vous retrouver dans peu de temps. Nous vous retrouvons ici dans ce studio, vous, le juriste Mamadou Konaté, vous qui êtes donc à l'Association malienne des expulsés. Alors, quand même ce genre de nouvelles tombe, quand des centaines de clandestins disparaissent comme ça dans la mer, on s'inquiète beaucoup et on a vite envie de connaître les nouvelles, c'est-à-dire découvrir les nationalités. Alors, a-t-on déjà des nouvelles sur ce plan, Monsieur Konaté?
Merci. Bon, pour le moment, nous n'avons pas réussi à connaître toutes les nationalités qui sont concernées par ce drame. Mais nous continuons donc à faire des explorations auprès donc nos partenaires ONG, associations donc en Europe, en Afrique, puis pour savoir au moins si Il y a donc des Maliens parmi les disparus, les morts. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de subsahariens, donc d'Africains, donc qui font partie donc des victimes. Alors donc nos efforts continuent pour chercher donc à connaître les identités. Parce qu'au départ, le problème qui se pose au départ, on ne connaît pas exactement le nombre de personnes. Si ça atteint plusieurs centaines, donc c'est le témoignage donc des rescapés qui peut permettre aux secouristes et aux organisations donc qui s'occupent de la question donc de faire un travail. Souvent ça demande beaucoup de temps, donc des recoupages qu'on fait.
Alors ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut aller jusqu'à combien de jours, combien de semaines, combien de mois?
Bon, ça peut aller à des mois et des mois, parce que d'abord l'état donc des rescapés, il faut donc les accompagner sur le plan psychologique, sur le plan humanitaire, donc qu'ils trouvent une stabilité au niveau donc sur le plan psychologique. Alors donc c'est pour certains, ça peut prendre du temps pour voilà, donc il faut évacuer ces questions d'abord avant donc d'avoir donc des idées précises sur effectivement le travail donc d'identification des victimes.
Mm-hmm. Oui. Alors Sadio Diakité, depuis Paris, vous aussi vous avez certainement l'oreille tendue du côté de la Méditerranée.
Oui, effectivement, comme monsieur Konaté vient de le dire, c'est vrai que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui de connaître l'identité de toutes ces victimes. Mais selon les informations que nous avons pu acquérir, comme vous le savez, le cas qui a ému toute l'Europe, c'est le cas, comme on le dit ici, de la petite fille malienne qu'on appelle Fabo, qui a été accueillie, donc dont les parents certainement ont disparu dans la mer. Donc c'est aussi, on ne peut pas vous dire exactement aujourd'hui le nombre de Maliens qui sont dans ces naufrages-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Maliens dedans. Donc c'est une situation à déplorer une fois de plus. Et certainement des subsahariens, des pays comme peut-être le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui sont aussi très souvent tentés par l'immigration. Mais aussi, on peut voir aussi des Syriens, des Érythréens, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les informations pour vous dire qui et quelles sont les nationalités. Ça prendra du temps qu'il faut, mais les concernés, en tout cas ceux qui s'occupent de ce volet-là, feront tout pour faire une lumière de la situation. Malheureusement, la plupart de ces migrants, ils les font retirer les pièces nécessaires, donc ça va être très très difficile pour pouvoir faire l'identification. Ça sera certainement fait au niveau des témoignages des rescapés qui peuvent apporter quelques éclaircissements par rapport à la situation.
Dites-nous, vous, Mamadou Konaté, vous qui êtes donc juriste, on sait que l'association malienne des expulsés s'implique effectivement pour savoir s'il y a des Maliens parmi les victimes. Mais parallèlement, certainement, même avant cette association, les autorités aussi doivent s'investir. C'est certainement le cas.
Oui, bon, en fait, normalement...
C'est vrai que dans ce studio, on avait voulu avoir ici un représentant du ministère, mais toutes nos tentatives ont été vaines. Alors, on va vous poser la question tout de même.
Bah, évidemment. Bon, de toute façon, la responsabilité de la protection donc, des citoyens revient d'abord aux États. Alors donc, si l'État apprend qu'il y a donc des Maliens, qu'il pourrait y avoir des Maliens donc, dans les lots, normalement, il devrait donc tout mettre en œuvre à l'heure actuelle, être à mesure donc de donner des informations précises à la population sur la situation donc d'éventuels Maliens qui pourraient se trouver dans les lots. Alors, il a évoqué le cas donc de la petite fille retrouvée dont les parents ont disparu. Alors donc, c'est effectivement très très émouvant son cas. Mais nous sommes, en tout cas au niveau de l'association malienne des expulsés, nous l'avons très 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 déploré, puisque on a l'impression donc dans ce cas de figure que il y a une distinction finalement entre les migrants. Le même cas, la même situation peut frapper une catégorie de migrants et ça ne suscite pas la même réaction donc à travers le monde. Vous vous souvenez sans doute en 2015 que la même situation est arrivée, n'est-ce pas, donc à un petit Syrien. Effectivement, donc c'était un migrant. Alors donc, le même cas arrive à un Africain, un Malien. Alors donc, c'est l'anonymat total. Presque, on n'entend personne donc s'émouvoir de la question. Moi, je pense que les autorités doivent en tout cas s'y mettre et assurer, jouer pleinement donc, ce rôle de protection de tous les citoyens maliens à l'intérieur comme à l'extérieur donc, du pays.
Alors, nous allons donc joindre l'autre qui est au bout du fil. Il s'agit de Sadio Diakité, l'adjoint au président du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, M. Diakité, quand ce genre de situation arrive, on le disait tout à l'heure, il est une obligation pour les autorités de s'investir. Est-ce que vous êtes le plus souvent, vous êtes généralement satisfait du degré d'implication des autorités pour avoir les nouvelles, essayer de savoir leur origine au niveau du Mali ici, l'origine des victimes?
Oui, déjà au niveau du Mali, que ce soit les autorités maliennes ou même les médias maliens, ils parlent très peu de ces drames d'immigration. Donc c'est une situation à déplorer parce que, vous voyez, tout le monde en Europe, les gens parlent de cette petite fille qui vraiment a émis tant de monde, mais aucune réaction de la part des autorités maliennes, à plus forte raison que les médias maliens qui en parlent très peu. Donc je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est au niveau des autorités maliennes. Nous ne sentons pas leur implication directe dans la gestion, à part quelques séminaires, quelques rencontres, s'il y a des drames comme ils ont fait une tournée dans la première région pour les premiers drames qui ont eu lieu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit M. Konaté, il faudrait quand même que les autorités maliennes prennent ces problèmes-là au sérieux, qu'ils arrivent à repérer les gens. Nous avons dit à son temps, les points de départ, c'est la Libye. Et la Libye, bien vrai que c'est un pays à risque aujourd'hui, mais les autorités maliennes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la vie des Maliens. Malheureusement, on les entend très peu.
Alors, on l'a vu depuis quand même un certain moment, la communauté internationale s'est mobilisée, il y a eu des rencontres au sommet. La communauté internationale doit donc s'impliquer, surtout les pays les plus riches du monde, l'Occident, d'une façon générale. Mais c'est vrai que ici, la partition des pays de départ quand même est assez importante. Alors, est-ce que vous sentez quand même un effort de la part des pays de départ pour freiner ou bien réduire au moins ces phénomènes, le phénomène de la migration clandestine, M. Konaté?
Oui, merci. Bon, on ne pourrait pas dire qu'ils ne font pas d'efforts. Et ce qu'ils font, effectivement, nous pensons que c'est insuffisant, donc vu l'ampleur donc de la question, parce que vous avez évoqué tantôt, il y a eu des sommets sur le plan mondial pour juguler. Mais très souvent, les pays de départ, les pays d'arrivée, les pays d'accueil vont donc se préoccuper beaucoup plus donc des conséquences. Donc du phénomène pour eux-mêmes,
oui.
Pour leur propre pays. Mm-hmm. Bon, les États aussi, c'est généralement c'est comme ça. Chaque État doit veiller sur ses propres intérêts. Malheureusement, c'est ce que nos États ne font pas souvent. Alors donc veiller strictement sur les intérêts donc de chaque État. Chaque État doit le faire. Aucun État ne le fera à la place d'un autre État. Alors donc, il y a eu un sommet en 2015. À Malte, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu 5 points majeurs donc, qui ont été dégagés. Mais à la fin du sommet, nous, ONG, on n'a pas su s'il y a eu accord sur ces points ou pas. Mais après le sommet, nous sommes rendus compte qu'il y a eu un plan d'action donc, de ce sommet. Et après, on a constaté, on a été un peu surpris de voir qu'il est question donc de la mise en œuvre de ce plan d'action. Alors donc nous on ne savait pas qu'il y ait accord sur les 5 points parce que il est question de réadmission, il y a beaucoup de questions donc de traiter les causes profondes de la migration. Alors donc On a vu comme ça, on a été face, n'est-ce pas, à la question de la mise en œuvre donc de ce plan d'action. Malheureusement, les États africains généralement subissent, n'est-ce pas, les mesures que d'autres pays prennent donc et les appliquent.
Comme quelles mesures, par exemple?
Mais écoute, quand on parle par exemple donc sur les 5 points majeurs dont on a parlé, où il y en a beaucoup, mais ce qui nous retient beaucoup l'attention, c'est la question donc de la réadmission donc des personnes en situation irrégulière donc dans les pays d'accueil. Alors cette situation peut être très très difficile, par exemple pour un pays comme le Mali. Vous n'êtes pas sans savoir l'apport, n'est-ce pas, donc énorme que les Maliens donc en situation régulière ou irrégulière, n'est-ce pas, apporte sur le plan économique. Donc, dans le pays, même si la plupart du temps, c'est dans l'informel, c'est quand même, ça a été estimé à un certain moment à des centaines de milliards de nos francs. Alors donc, imaginez que l'on veuille mettre fin, n'est-ce pas, donc à la migration irrégulière. C'est sûr que les centaines de milliards qui sont investis chaque année par les migrants, il y a aussi bien les migrants réguliers que les migrants irréguliers. Alors donc, vous avez vu la PONAM, la politique nationale de migration que le Mali a élaborée et mis en œuvre. Alors cette politique a besoin de seulement 120 milliards donc, pour atteindre ses objectifs. Alors donc, ces 120 milliards, vous avez vu que c'est en deçà des centaines de milliards que les migrants investissent chaque année, n'est-ce pas, donc à l'économie malienne. Alors que la PONAM, ce n'est pas seulement pour une année, mais c'est dans la durée. Alors donc, vous voyez le déséquilibre qu'il y a entre ces deux situations. Alors donc, je le disais, très souvent, nos États ne prévoient pas. Ils ne prévoient rien. Les Africains sont allés au sommet à Malte. Il n'y avait pas donc de documents élaborés à l'avance pour les soumettre, n'est-ce pas, aux partenaires, puisque les États européens donc sont des partenaires et ensemble ils doivent discuter ensemble pour chercher à mettre ensemble, n'est-ce pas, les mesures pour mettre fin à ce qu'ils appellent la migration irrégulière. Alors donc ils sont partis séparément, chacun a sa petite idée, et après, il y a eu le plan d'action. Et ce plan d'action, ce n'est pas les Africains qui l'ont élaboré, c'est les pays européens donc, qui l'ont mis en, qui l'ont élaboré et qui l'ont proposé, pour ne pas dire qu'ils l'ont imposé, n'est-ce pas, aux pays africains et qui l'ont accepté. Alors donc, ça va comme ça. Sinon, normalement, vous avez vu les naufrages, il y a, en tout cas moi, je n'ai pas remarqué de réaction officielle d'un État africain face, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui meurent dans les eaux. Ça, c'est quand même difficile à comprendre, puisque la plupart, c'est des Africains, même si on n'a pas encore eu avec certitude l'identité de ces personnes, mais on sait que la majorité, c'est des Africains. Et on sait aussi que les bateaux ont quitté, n'est-ce pas, les côtes libyennes, donc pour aller dans cette aventure-là. Alors donc, les États, comme on l'a dit, doivent véritablement se battre pour, n'est-ce pas, protéger, comme on l'a dit, les intérêts de ses citoyens.
Mm-hmm. Alors, Sadio Diakité du Haut Conseil des Maliens de France, à vous cette question. Alors, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, peut-on dire que le sommet de Malte a servi à quelque chose?
Ben, je pense que c'est le sommet de Malte, nous avons dénoncé à son temps comme quoi c'était un sommet qui était simplement de côté de l'Europe. Les Africains, les chefs d'État africains n'ont pas eu grand mot à dire, alors que les plus concernés, ce sont ces chefs d'État-là. Mais malheureusement, ils sont partis en rien discuté, sans pouvoir travailler réellement sur cette question-là. Donc pour nous, au jour d'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, malgré la volonté de quelques chefs d'État européens quand même qui se sont battus, comme la chancelière Angela Merkel ou le Français François Hollande, les choses n'ont pas bougé. On le voit aujourd'hui, et tous les jours, c'est des centaines de migrants qui périssent sur la Méditerranée. Donc pour nous, ça n'a pas servi à grand chose. Il y a eu quelques des explications, comme l'a dit Konaté, mais simplement la question essentielle pour les Européens, c'était le retour des migrants illégaux dans leur pays, des migrants comme les Maliens, comme d'autres pays. À l'époque, lors du passage du président de la République du Mali, nous avons interpellé sur cette question-là. À l'époque, ils donnaient des laissez-passer européens aux illégaux, aux migrants illégaux, pour les expatriés. Donc nous voyons aujourd'hui que ce sommet n'a pas servi à grand chose, et on le voit aujourd'hui en Europe, hein. C'est surtout avec la montée des partis nationaux dans différents pays aujourd'hui, les Européens même s'inquiètent par rapport à la migration. Donc il y a toutes ces questions-là aujourd'hui que l'Europe même doit traiter, qui est en train de traiter, vu la montée de ces partis nationaux dans les différents pays. Donc, pour nous, ça n'a pas servi à grand chose.
Monsieur Diakité, voulez-vous dire qu'au sujet de la migration clandestine, il y a beaucoup de discours, mais peu d'actions concrètes?
Pardon?
Et voulez-vous dire que lorsqu'on évoque la migration clandestine, il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes?
Oui, il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes. Ce n'est pas simplement l'immigration vers l'Europe, même à l'intérieur de l'Afrique, on le voit. Hein. Il y a trop de discours, mais il n'y a pas d'actes concrets. Quand on voit des pays comme la Guinée équatoriale ou même le Gabon, la situation des Maliens dans ces pays-là, c'est encore plus pur qu'en Europe. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, il y a toujours des discours, mais il n'y a pas de faits concrets derrière. Donc, il y a aujourd'hui ce qui, à mon avis, hein, il faudrait que les chefs d'État africains eux-mêmes arrivent à faire un sommet en Afrique entre eux et chefs d'État pour essayer de trouver une solution. Ce n'est pas simplement venir chercher les solutions en Europe. La solution, c'est en Afrique. Donc, ces chefs d'État-là, ils doivent se réunir, faire un sommet et discuter de toutes ces questions-là entre les différents pays africains d'abord et puis sortir vers l'Europe pour convaincre les Européens de la nécessité de c'est vrai, la migration aujourd'hui, l'Europe est dans une situation très difficile dans le domaine économique. Donc, ça pose beaucoup de problèmes, mais il faudrait que les chefs d'État africains prennent les choses au sérieux pour pouvoir combattre vraiment cette immigration clandestine qui est en train de faire des ravages dans tous les pays africains.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La migration clandestine et ses conséquences, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mardi. Nous en parlons avec ici dans ce studio Mamadou Konaté, qui est juriste à l'Association malienne des expulsés, et en France, Sadio Diakité, qui est l'adjoint au président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Alors, nous sommes ici avec vous, monsieur Konaté. Alors, on dit qu'en 2015, en tout cas selon les chiffres qu'on peut retrouver par-ci par-là, en 2015, il y a eu 3500 victimes, donc 3500 personnes qui ont trouvé la mort sur la Méditerranée, en tout cas en tentant de traverser de façon illégale, dont 115 000, disons, dont en tout cas moins de la moitié depuis la Libye. Alors, cette année, on dit déjà que cette année, en 2016, il y a déjà 1370 personnes. C'est vrai que quelque part, on dit que lorsqu'on compare les périodes, ça dit cette même période l'année dernière, qu'on dit qu'il y a une baisse quand même, une baisse. C'est une baisse que vous confirmez?
Bon,
c'est... Ça a eu moins de dégâts pour cette période, cette année, par rapport à l'année 2015.
À la même période.
Voilà, la même période.
Voilà, c'est la nuance est peut-être une question de période, mais peut-être après, ça peut augmenter, hein, on ne le souhaite pas. Parce que le problème, c'est que la Libye étant devenue un État comme il est, alors c'est beaucoup plus facile donc de passer par la Libye. Donc, le côté marocain est devenu un peu plus difficile à passer. Et puis, dans ce chiffre-là, il y a des personnes qui sont tuées, qui meurent dans le Sahara, et qui sont tuées, n'est-ce pas, souvent par les forces de l'ordre. Parce qu'au Maroc, c'est devenu très difficile, il y a la violence. Et donc, le passage est devenu très, très difficile. Ce qui fait que la plupart des migrants maintenant et remonte vers la Libye, donc où les réseaux mafieux sont donc n'ont pas de blocage et ils organisent les traversées et voilà le résultat est c'est ce que nous voyons. Alors donc cette situation et ça va continuer parce que vous avez vu concrètement nos États ne font pas et n'ont pas encore fait de réflexion assez profonde donc pour trouver des solutions. On a l'impression que nous attendons toujours que les solutions viennent donc de l'extérieur. Vous avez vu la PONAM, elle ne sera pas en totalité financée, n'est-ce pas, donc par le Mali même qui a élaboré cette politique. On attend, n'est-ce pas, donc de la collaboration, n'est-ce pas, des partenaires pour essayer donc d'obtenir les 120 milliards donc que la PONAM, la mise en œuvre de la PONAM demande. Alors ça, c'est quand même difficile à comprendre. Sinon, tout le monde sait que la cause profonde de cette migration irrégulière, c'est bien la misère et la pauvreté. Pour d'autres, c'est les guerres dans leur pays, les guerres civiles donc, qui les poussent à partir. Mais fondamentalement, les gens sont confrontés, n'est-ce pas, à la misère.
Nous en parlerons parce que nous savons bien que l'association malienne des expulsés est déjà montée au créneau pour dénoncer effectivement cette situation.
Absolument.
Alors nous allons partir du côté de Paris retrouver donc Sadio Diakité qui est l'adjoint au président du Haut Conseil des Maliens de France. Alors Monsieur Diakité, la situation comme on le voit demeure quand même dramatique au niveau de la Méditerranée, mais selon les chiffres publiés, il y a quand même une baisse du nombre des victimes lorsqu'on compare cette période à celle de l'année dernière. On dit que c'est dû certainement aux efforts consentis pour venir en aide aux embarcations en difficulté. Alors, est-ce qu'on peut au moins se réjouir de ces petits points?
Ben, vous savez, c'est très difficile de quantifier le nombre de morts qui a traversé la Méditerranée. C'est très, très difficile parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont là qu'on ne maîtrise pas. Il y a les passeurs. Une fois que quelqu'un ne veut pas aller, la personne peut se faire liquider tout de suite sans autre chose à dire, sans aucun mot à dire. Donc, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai qu'à un certain moment, on a constaté qu'il y avait une certaine accalmie au niveau de la traversée vers l'Europe, mais les efforts sont très peu visibles parce que ça peut déborder comme on l'a vu ces derniers jours avec plus de centaines de personnes dans la même embarcation et ça diffère entre les départs. Il peut y avoir des 100 personnes dans un bateau et demain il peut y avoir 500 dans un autre bateau. Vous voyez donc, et on voit aussi l'effort de l'Europe au niveau de, par exemple, au niveau de l'Italie ou de la Grèce, où ils ont mis en place des points d'enregistrement et l'accord qui avait été signé entre Bruxelles et la Turquie, bien sûr, pour essayer de freiner un peu le départ. Donc, à un certain moment, on a vu qu'il y avait eu cet accalmie-là. Mais pour vous dire aujourd'hui que ça peut tout augmenter, comme ça peut ne pas augmenter, mais on voit très peu d'avancées par rapport à la traversée aujourd'hui vers l'Europe.
La suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. La migration clandestine qui continue donc de faire des dégâts, c'est le sujet du jour. Alors, à présent, nous allons nous intéresser de façon un peu particulière quand même à la situation ici au niveau du Mali. Après le drame qui est arrivé, on a appris que l'association malienne des expulsés est quand même montée au créneau et s'est dit indignée et révoltée. Alors, vous, monsieur le juriste de l'association Oumarou Konaté, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, hein, cette réaction de l'association des Maliens de l'association malienne des expulsés.
Voilà. Oui, merci M. Fomba, et c'est bien ça parce que vous savez que au cours du débat on l'a dit, on n'a pas entendu nos autorités En tout cas, on ne les a pas entendus comme on voulait les entendre. Et donc, c'est une situation donc, qui révolte, qui est frustrante. Parce que, on l'a dit, nos compatriotes continuent à perdre la vie comme si leur vie n'était pas assez importante, alors que la vie de tout homme est sacrée, donc elle doit être respectée. Alors donc, nous avons déjà fait des réactions, mais nous sommes en train donc de préparer et de finaliser une déclaration qui va traiter, qui va beaucoup interpeller les autorités nationales. Oui.
Du côté de la France, Sadio Diakité. Alors, Monsieur Diakité, vous avez certainement appris les nouvelles par rapport à la réaction de l'association malienne des expulsés. Alors, comment est-ce que vous appréciez les déclarations faites par cette association après les récents drames survenus au niveau de la Méditerranée?
Nous, au niveau du Haut Conseil des Maliens de France, nous ne pouvons que saluer cette initiative de cette association-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur, et comme leur association indique, l'association des expulsés maliens, c'est des gens qui sont vraiment conscients de la situation pour avoir vécu la plupart de la situation, soit en Europe ou dans d'autres pays africains ou ailleurs. Donc, ils sont à saluer. Heureusement qu'ils sont là en train de bousculer un peu aussi les autorités maliennes pour qu'ils puissent prendre au sérieux ce problème d'immigration, ce drame d'immigration qui, aujourd'hui, au lieu. Nous avons, dans notre analyse, les autorités maliennes pensent beaucoup plus à l'économie malienne qu'à la vie des Maliens tout court. Parce que à chaque fois dans leur discours, ils font ressortir l'apport financier des migrants, mais on ne les a jamais entendus si un Malien est battu dans un pays, si un Malien est tué dans un pays, on les entend très peu. Donc c'est une situation qui est très très déplorable. Et heureusement qu'il y a des associations maliennes qui s'intéressent à cette question d'immigration, comme en Europe d'ailleurs, la plupart des défenseurs des migrants. C'est les associations. Les associations sont à saluer et j'espère que l'association des policiers maliens continueront à vraiment à manifester, à sensibiliser la population par rapport au drame de l'immigration.
Alors, Mamadou Konaté, on a entendu le porte-parole quand même de l'association malienne des expulsés dire que c'est le désespoir qui est à l'origine de cette démarche périlleuse qu'entreprennent beaucoup de Maliens. Alors, le désespoir, c'est toujours la raison, il n'y a donc pas d'amélioration?
Oui, absolument, vous le savez comme moi. Vous serez d'accord avec moi qu'on a un problème d'emploi, n'est-ce pas, des jeunes, de travail tout simplement pour les jeunes dans le pays. Parce que si les jeunes ne faisaient pas face à une misère indescriptible, à une pauvreté, la pauvreté d'ailleurs c'est difficile, mais quand finalement la jeunesse manque de perspective, et là c'est encore plus difficile. Parce que là, quand vous êtes pauvre aujourd'hui, vous savez que quand vous travaillez, vous allez certainement sortir donc de la pauvreté. Mais si vous n'avez pas de perspective, alors donc ça amène au désespoir. Et c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, à la jeunesse. C'est pour cette raison que les jeunes, d'ailleurs, à un certain moment, ils avaient un langage qui disait « Mieux vaut mourir en marchant plutôt que de mourir couché à la maison ». C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester là, vous êtes pauvre, vous êtes né pauvre, vos parents sont pauvres, et vous avez fait l'école, vous avez terminé l'école, vous n'avez pas trouvé de travail, alors donc vous n'avez aucune perspective donc, devant vous, et ça vous amène dans le désespoir. Alors donc quand vous restez à la maison, et vous allez mourir, c'est-à-dire que vous restez cloué sur place. Alors donc, au lieu de mourir sur place, les jeunes disaient, donc ils préfèrent plutôt mourir en marchant, c'est-à-dire en allant à l'aventure dans toutes les conditions. Alors donc, c'est pour cette raison, effectivement, nous pensons que les causes fondamentales de la migration, qu'on appelle la migration irrégulière, c'est bien sûr, n'est-ce pas, la pauvreté et le manque de perspective qui conduisent au désespoir pour les jeunes. Alors donc, il y a les autorités, les décideurs africains et européens misent beaucoup sur la mise en œuvre du plan d'action de La Valette. Alors, il faut faire attention parce que la Valette parle beaucoup de projets pour les jeunes, de mise à disposition donc de projets pour les jeunes. Alors que souvent la question ne peut pas se limiter à une question donc de donner un projet, surtout que c'est un projet de quelques millions qu'on va donner à un jeune. Bon, c'est pas évident que le projet puisse être la solution au problème. Et surtout que les projets, et si ils sont destinés à la jeunesse.
Alors qu'est-ce qui peut être la solution donc ?
La solution, comme on l'a dit, il faut une véritable politique d'emploi. Je ne sais pas, je parle comme ça, je ne sais pas si nos États en ont, mais même s'ils en ont, en tout cas, et le chômage auquel donc on fait face, alors on doute forcément que ces politiques-là sont efficaces. Alors donc il faut vraiment mener une vraie réflexion donc de autour de la question et mettre en œuvre, n'est-ce pas, des politiques, une véritable politique donc d'emploi pour les jeunes, pas seulement prendre des chiffres, parce que quand on voit les chiffres aujourd'hui, les chiffres que les autorités donnent par rapport à la création d'emplois au Mali, c'est des milliers et des milliers, n'est-ce pas, donc d'emplois qui sont créés. Mais en réalité, donc, l'impact au niveau donc, de la population, de cette population jeune, donc, ne nous permet pas de dire que, effectivement, la misère recule, effectivement, donc, le manque d'emploi recule. Mais quand on se fie aux chiffres, on voit qu'il y a eu beaucoup de création donc, d'emplois. Alors donc, on s'interroge effectivement quels sont, pour l'État en tout cas, ces créations d'emplois qui n'ont pas suffisamment donc, d'impact au niveau donc, de la population cible, c'est-à-dire les jeunes.
Alors, monsieur le vice-président, le président donc adjoint du Haut Conseil des Maliens de France, le désespoir qui pousse quand même à l'aventure à tout prix, dans les conditions que l'on sait, alors le désespoir qui pousse à cela, mais se jeter sur la mer quand même dans des conditions que l'on sait par désespoir, n'est-ce pas là aussi la fin de l'espoir, monsieur Jacquidé?
Ben, écoutez, vraiment, l'Europe aujourd'hui est confrontée à un sérieux problème. On a presque les mêmes problèmes, la question de croissance qui ralentit en Europe et beaucoup de nos compatriotes qui, la plupart, étaient en Espagne ou même en Italie, qui ont débarqué en France, on les voit tous les jours à la longueur de la journée, sans emploi. Donc, c'est encore plus ici. On voit que le drame de la mer, mais il y a un autre drame qui est plus grave, c'est la présence des enfants, souvent des mineurs maliens, dans les palais parisiens, etc., à Paris, qui sont sans emploi, sans ressources. Je pense que les autorités maliennes ont été saisies à plusieurs reprises par rapport à cette question-là. Voilà, donc c'est pas l'Eldorado comme les gens pensaient il y a quelques années. Et l'Europe est encore beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et comme disait Konaté, je pense qu'au niveau de l'emploi au Mali, je vais essayer quand même un peu de rebondir sur cette question-là. Malgré que les autorités maliennes nous font miroiter tous les jours avec tel nombre de créations d'emplois, mais je pense qu'ils font des choses sans concertation, sans que les projets doivent venir d'abord de la personne elle-même. Sinon, c'est voué à l'échec. On ne donne pas des millions à quelqu'un pour dire « vas-y, va faire quelque chose ».
Vous voulez dire que les projets sont souvent imposés?
Non, c'est des projets qui sont souvent imposés. On voit à la longueur des journées, on a des collègues, on a des camarades, on sait qui sont bénéficiaires de ces projets-là. La plupart, c'est des projets de pistons, donc ça ne peut pas aller loin. Donc il faut un accompagnement individuel de ces jeunes-là. Et souvent, il y a une inadéquation entre l'emploi et la formation. Quelqu'un qui sort, je prends un exemple, comme un ingénieur en agriculture, et demain, il se retrouve dans un autre domaine où il n'a aucune compétence. parce que simplement ils cherchent coûte que coûte du travail, vous voyez que ça ne va pas aller très loin. Alors qu'il a une formation où il suffit simplement de l'accompagner dans sa formation pour qu'il puisse s'investir dans un domaine qu'il maîtrise très bien. Donc voilà un peu, je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment que l'État prenne au sérieux ce volet formation-emploi. Et sans ça, tous les projets qu'on va initier, qu'on va mettre en place, sont voués à l'échec parce que c'est des projets qui ne vont pas aller loin vu la conception même de ces projets-là. Donc voilà un peu, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait que l'État et tous les décideurs d'ailleurs et puissent... Le jeune malien, M. Fomba, il faut le voir en Europe. Comment il se bat ici? Comment cette jeunesse-là se bat en Europe? Et moi, j'étais dans les foyers, je vois des jeunes maliens, et la plupart sans papier, mais le matin, à 5 heures du matin déjà, ils sont debout. Ils cherchent du boulot coûte que coûte pour pouvoir s'en sortir. Je pense que si on donnait les mêmes moyens à ces gens, à ces jeunes-là en Afrique, ils seront beaucoup plus et beaucoup vont arrêter de se jeter dans l'eau ou sur les dunes de sable.
On va donc conclure ce débat avec vous, M. Konaté, vous qui êtes donc juriste à l'association malienne des expulsés. Et le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, c'est de remercier une fois de plus le CIJO Tamani de nous donner l'occasion donc d'évoquer ce problème et de donner notre avis à la population, aux autorités, à l'ensemble donc des décideurs. Et nous interpellons les autorités maliennes donc à faire face, n'est-ce pas, à ce problème qui est un problème qui est un problème extrêmement important pour toute la population malienne. Donc la migration est une vieille tradition dans notre pays et les autorités doivent le prendre à bras le corps. Je vous remercie.
C'est donc tout pour le débat de ce mardi. Je rappelle que le sujet du jour était la migration clandestine et l'hécatombe continue. Nos invités étaient Mamadou Konaté, juriste de l'association malienne des expulsés, ici présent dans ce studio. En ligne, nous avions Sadio Diakité, qui est l'adjoint au président du Haut Conseil des Maliens de France. Nous remercions donc tous les deux. De l'autre côté, nous avions à la mise en onde Philly Dambélé. Maintenant, la régie vidéo, c'est bien nous dirait qui est là, et à la réalisation Ousmane Diadié Touré, présentation Seydou Fomba. Nous vous retrouvons donc demain pour un autre sujet. À demain.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.